Vous écoutez le libre journal des Chevaux Légers, dirigé par Luc Le Garsmeur, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, jeudi 9 décembre 2021, de 21h30 à 23h, et réalisé par Stéphane. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission, mais uniquement par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Bonsoir, bonsoir chers auditeurs. Ce 9 novembre, vous l'avez peut-être vu, un communiqué de la Cour des comptes tire un bilan décevant de, je cite, la mise en œuvre du plan crack à Paris de 2019 à 2021. C'est-à-dire que même en faisant la part de la crise sanitaire, ce plan crack a coûté 24 millions d'euros, dont 3 de surcoût. Il a offert trop peu de places d'hébergement. Il n'intégrait pas l'action de la police ni celle de la justice et s'est montré globalement sous-dimensionné puisque le nombre de consommateurs précaires de cette cocaïne du pauvre qu'est le crack dans le nord-est parisien s'élève à quelques 700 ou 800 personnes. Voilà donc pour ce communiqué de la Cour des comptes. Du crack, nous parlerons ce soir, ainsi que du cannabis, tant ces deux produits stupéfiants ont acquis en France une importance politique. Le crack, parce qu'il altère le mode de vie des Parisiens, qu'ils soient consommateurs ou non. Le cannabis, parce que la coalition au pouvoir en Allemagne depuis quelques jours, a annoncé hier vouloir le légaliser. Or, l'Allemagne est notre voisin. De cela, nous parlerons avec Serge Le Bigot ce soir. Bonsoir Serge Le Bigot.
Bonsoir.
Serge Le Bigot, vous êtes président de l'association Parents contre la drogue. Vous êtes l'auteur du dossier noir du cannabis, témoignages accablants. C'était chez Salvatore. Et puis, vous avez également publié Salle de shoot, ce qu'il refuse de vous dire. C'est à l'occasion de la parution de ce dernier volume que je vous avais d'ailleurs, reçu au sujet de ce qui n'était encore qu'un dossier pour le 10e arrondissement de Paris. Depuis, une autre a ouvert à Strasbourg. C'était évidemment déjà un dossier important dans d'autres pays étrangers. Vous nous direz, Serge Le Bigot, que ce dossier est appelé à s'étendre. Je dis appelé à s'étendre, mais il y a tout de même une opposition puisque... Oui. Vous nous annoncez ce soir que vous avez mis en ligne une pétition sur le site de votre association Parents contre la drogue.
Oui.
Et quel est l'objet de cette pétition ?
Alors, cette pétition, c'est pour empêcher l'ouverture des 24 salles de shoot promises par Madame Hidalgo, donc dans tout Paris. Et il n'est pas question de la laisser s'étendre. Donc, à ce jour, on a recueilli plus de 22 000 signatures sur le site de Mes Opinions, mais on peut charger la pétition soit sur le Facebook de l'association, donc Parents contre la drogue, ou soit sur le site www.parentscontrelagotte.com.
Merci Serge Le Bigot. Alors, c'est le sujet donc pour la seconde partie de cette émission, à partir de 22h. Et pour ouvrir cette émission, je reçois Paul-Marie Couteau. Bonsoir Paul-Marie Couteau.
Bonsoir mon cher Luc.
Paul-Marie Couteau, vous êtes écrivain, vous êtes ancien député français au Parlement européen, bien connu de nos auditeurs et des autres, et vous êtes aussi et surtout le directeur de publication du Nouveau Conservateur, directeur de la rédaction, qui publie son numéro 5, intitulé, dont le dossier est intitulé « Chine, Californie, l'émergence de l'univers pacifique ». C'est évidemment un sujet très important. On pense aux sous-marins qui nous sont passés sous le nez ou sous les pieds il y a quelques mois. On pense aussi et surtout à cet énième référendum qui se tiendra dimanche en Nouvelle-Calédonie avec un corps électoral réduit. Et le corps électoral réduit de Nouvelle-Calédonie sera à nouveau interrogé sur la question de l'accès de la Nouvelle-Calédonie à la pleine et entière indépendance. Voilà pour la double conjoncture, la double actualité de ce dossier. Alors bravo pour cette cinquième parution. Est-ce que vous êtes inquiet pour dimanche, Paul-Marie Couteau ?
Je suis toujours inquiet quand tant de richesses françaises sont en jeu. Et ils sont en danger, évidemment. Comment ne pas l'être ? Il y a beaucoup d'atouts pour la France à disposer de territoires d'outre-mer. On ne le cache pas, ils bénéficient tous de quelques privilèges. Ce qui fait de la France, par exemple, on le répète, mais il ne faut pas l'oublier, le seul pays du monde sur lequel le soleil ne se couche jamais, et celui qui dispose du deuxième domaine maritime. Bien. Je suis inquiet parce que il y a dans la Nouvelle-Calédonie à peu près 25%, 24-25% des richesses mondiales de nickel, dont on a de plus en plus besoin d'ailleurs. Quelques terres rares, comme l'on dit, comme dans la composition des composants électroniques, que pourchasse partout la Chine, parce qu'elle veut en avoir un quasi-monopole, pour lui donner ce qui lui donnerait une puissance inouïe. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, on y reviendra peut-être, que la Chine est aux aguets et qu'elle a infiltré un grand nombre de mouvements indépendantistes, de sorte qu'elle pourrait être, moyennant sans doute non seulement ce vote, mais ensuite quelques violences sur l'archipel de la Nouvelle-Calédonie, elle pourrait prendre le contrôle de la Nouvelle-Calédonie et de ses richesses. Bien, elle les convoite, tout le monde le sait. Elle l'a fait d'ailleurs en Vanuatu, pas loin. De surcroît, il y a en Nouvelle-Calédonie toutes sortes de métaux précieux, commencé par l'or d'ailleurs. Enfin, c'est une terre inouïe. Et je reviens au domaine maritime. Grâce à cet archipel, à la Nouvelle-Calédonie, nous avons le second domaine maritime du monde, dont 14% est dû à la Nouvelle-Calédonie. Bien. Si on enlève 14%, je ne suis pas sûr que nous gardions, surtout si nous ne gardons pas l'archipel, j'allais dire voisin, pas vraiment voisin, mais l'autre archipel français du Pacifique, qui est la Polynésie française. Si on fragilise la Polynésie française, nous perdons un atout maître du 20e siècle, du 21e siècle, pardon, d'autant qu'il y a dans les richesses sous-marines, de quoi assurer une sorte de transition agroalimentaire du 21e ou du 21e siècle, avec en utilisant les richesses sous-marines pour entrer dans l'alimentation d'une population qui ne cesse de croître. C'est dangereux, bien entendu, cet accroissement de population, mais grâce à la mer, on pourrait faire face. Encore faut-il qu'il y en ait et qu'on l'exploite. La France sait mieux que d'autres, mis à part la Russie et les États-Unis, de deux concurrents, exploiter les ressources sous-marines de très longue date. Je dis de très longue date parce que si la France est présente dans le Pacifique, tout le monde le sait, vous qui êtes, mon cher Luc, chéreux d'histoire, et nos auditeurs de Radio Courtoisie aussi, savent que ce fut une constante de la politique de plusieurs rois, surtout au XVIIIe siècle, mais encore au XIXe siècle, de maintenir, enfin, la dragée haute, de tenir la dragée haute aux Britanniques. Ils n'ont jamais voulu que les catholiques s'installassent dans ce vaste périmètre pacifique, mais nous avons réussi. Les expéditions ont fait l'objet des soins les plus scrupuleux, je dirais les plus inquiets de nos rois, à peu près tous les Bourbons d'ailleurs, depuis le XVIIe jusqu'à Charles X. Et je trouve d'ailleurs que est très touchante l'anecdote, vraie ou fausse, mais je crois qu'elle est vraie, que l'on attribue à la terrible, au terrible moment où Louis XVI allait être, on dit exécuté, en fait assassiné, parce qu'on ne voit pas au nom de quel jugement légitime il aurait été exécuté, en fait assassiné. Avant de monter sur l'échafaud, il a demandé, a-t-on des nouvelles de Monsieur de La Pérouse, expédition qu'il couvait de ses yeux parce qu'il voulait que la France fût une puissance du Pacifique.
Mais alors différence, Paul-Marie, je vous coupe, la grande différence, sans nous reporter exclusivement au XVIIIe siècle, c'est que d'un côté, on a un souverain qui est le maître d'œuvre de la puissance française, et de l'autre, on a un souverain, on a la nation, en tout cas on a l'État, qui a continuellement, dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, travaillé à l'éloigner de la métropole, puisque, après tout, c'est la troisième fois que les Néo-Calédoniens sont appelés aux urnes sur cette question de l'indépendance.
Plus,
c'est bien
plus
pire
encore,
que Lisbonne.
Plus encore. Alors, la République, beaucoup plus tard, c'est sous Rocard, dans les années 1990, a déjà, d'ailleurs, il y a même eu un référendum à l'échelle nationale, souvenez-vous, pour entériner les accords de Nouméa. Il est vrai qu'à partir de, sous l'ère Mitterrand, sous la fin de l'ère Mitterrand, on a commencé ajouter foi aux revendications indépendantistes de certaines populations kanaks. D'abord, on a
qui étaient les populations travaillées par la gauche. Il y a quand même une connexion entre une gauche locale et une gauche métropolitaine.
À l'époque, par les anglo-saxons, parce que c'est une telle richesse que les puissances étrangères sont à l'affût. Bon. D'où l'affaire, d'ailleurs, du Rainbow Warrior. C'était pas sans lien, figurez-vous. Bien. Et donc, ça a été tout de même un souci pendant très longtemps, sauf que à partir des années 1990, curieuse politique, inspirée par Michel Rocard, tellement curieuse qu'il a créé une sorte de cénacle de personnalités qui étaient censées négocier avec les Kanaks et qui n'étaient pas toutes officielles, puisqu'il y avait notamment les trois loges, les trois obédiences maçonniques et toutes les religions. Comme ça, il avait inventé un truc, il a d'ailleurs écrit plus tard, c'est les références figure dans l'article de Jean-Claude Martinez qui publie un article très fouillé sur cette affaire.
La Nouvelle-Calédonie, une perle dans le Pacifique.
La Nouvelle-Calédonie, une perle dans le Pacifique. C'est un article de 10 pages, mais c'est la vertu des... Je vous dis parenthèse de nouveau, c'est la vertu des revues. Il est rare que je fasse des... Enfin, je publie des articles d'une dizaine ou une douzaine de pages, mais quand on veut vraiment avoir le dossier en main, il faut mettre le paquet. Jean-Claude Martinez, ancien député Rassemblement National, Front National et Rassemblement National, a publié vraiment, nous a donné vraiment un article exhaustif passionnant, et vous trouverez à peu près tout ce que je dis dans cet article, et même bien davantage, bien entendu, je ne peux pas tout dire ici. Mais les conditions dans lesquelles ont été négociés les accords de Nouméa, ensuite approuvés, on n'en est pas au troisième référendum, je crois qu'on en est, dit Jean-Claude Martinez, au septième référendum.
Bien. Oui, alors il y a les référendums qui sont disposés par les accords de Nouméa de 1998 pour les plus récents. Mais si l'on en prend quelques-uns antérieurs, sans aller jusqu'à ce chiffre intégral, on se rend compte que les indépendantistes, en tout cas dans les suffrages exprimés, ne sont qu'1,7% en 1987. Ils sont 43% en 2018, 46,7% en 2020. On a l'impression qu'on fait voter le peuple jusqu'à ce qu'il vote bien. C'est-à-dire, en l'espèce, jusqu'à ce qu'il vote mal.
Dans le sens de l'affaiblissement de la puissance nationale. C'est très significatif d'une classe politique qui n'a que faire de la puissance française et qui s'en débarrasse à la première occasion. Il faudrait pouvoir les juger. Je ne sais pas comment on arrivera à les juger un jour. Mais vous me demandez si je suis inquiet. Oui, je suis inquiet parce qu'évidemment, tout est fait pour qu'on le perde, ce référendum. Vous avez parlé du corps électoral, on a amputé du corps électoral Caldoche, c'est-à-dire des Français de Nouvelle-Calédonie d'origine métropolitaine, de ceux qui sont arrivés il y a moins de 25 ou 30 ans, je ne sais pas exactement le...
Depuis 1995, donc ça fait 26 ans.
95, c'est ça, c'est 25 ans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Caldoches qui ne pourront pas voter, parce qu'ils ne sont pas là depuis assez longtemps, vous vous rendez compte. Donc oui, je suis inquiet. Je suis inquiet et en même temps, je crois que nous parlons, les carottes, les dés sont jetés, je ne dirais pas les carottes sont cuites. Il n'est pas impossible du tout, pour toutes sortes de raisons qui tiennent plus à la providence qu'à la raison d'ailleurs, que ce référendum, une troisième fois, rejette l'indépendance. C'est pas impossible,
mais peut-être pour de mauvaises raisons, en tout cas des raisons pas complètement convaincantes, puisque les indépendantistes ont appelé à l'abstention, et puis il y a aussi le contexte de la crise sanitaire. Est-ce que le pire, Paul-Marie Couteau, en un sens, ne serait pas d'avoir un scrutin favorable au maintien dans la nation française, mais avec une participation très fortement réduite et une instrumentalisation des indépendantistes prétendant que seul le camp favorable à la France aurait voté.
Vous avez raison, c'est-à-dire une situation très fragile. J'ai envie de vous dire, tout dépendra de la volonté politique qui sera celle de la future équipe gouvernementale issue au printemps prochain des votes d'avril et mai et juin. Voilà, présidentielle et législative. Il est certain, absolument certain, que si la métropole, si le gouvernement français veut maintenir l'intégralité du territoire national, il le peut. s'il le peut, il le doit. Mais ça, ça se jouera dans 6 mois. Commençons par cette étape. Je garde pour vous répondre un petit espoir, un certain espoir, que pour la 3e fois, dans le cadre de cette formule de référendum, en tous les cas, les indépendantistes perdent. Voilà.
Paul-Marie Couteau, dans l'affaire algérienne, au début des années 60 et déjà à la fin des années 50, on sait que l'opinion métropolitaine était aussi travaillée par ce que l'on a appelé le quartiérisme, c'est-à-dire la Corrèze avant le Zambèze, la volonté de conserver l'argent en métropole ou en tout cas de réduire des dépenses consacrées à notre Outre-mer. Est-ce que vous ne craignez pas que, à la faveur ou à la défaveur de la sortie de crise sanitaire, si nous en sortons un jour, au moment où il faudra rembourser cet argent d'hélicoptère déversé par l'État sur les entrepreneurs, sur les commerçants, sur la population, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait dans l'opinion métropolitaine un mouvement de protestation qui refuse de dépenser pour l'outre-mer?
Si vous avez raison, je crains cela aussi. Je crains tout. Je crains tout à partir du moment où le bras du gouvernement français tremble. Tout est à craindre, dans toutes les hypothèses. Quel que soit le résultat du référendum de dimanche, et je dirais pour ceux qui nous écoutent dimanche, de ce soir.
D'où l'enjeu des présidentielles et législatives.
J'allais dire, le grand enjeu, enfin la grande affaire, ce sera pour ce sujet comme sur tant d'autres, est-ce que nous aurons le cran de mettre à la tête de l'État, est-ce que le peuple français fera ce qu'il faut pour mettre à la tête de l'État une équipe qui défende la France? Voilà, c'est ça la seule réponse que je peux vous faire. Jusqu'à présent, sur bien des sujets, il y a lieu de trembler et de retrembler.
Donc l'intégrité du territoire peut être un sujet de campagne et doit être un sujet de campagne.
Voilà.
Alors, c'est votre appel ce soir, Paul-Marie Couteau.
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est un sujet de campagne. Et si nous avons au nouveau conservateur consacré le dossier de ce numéro 5, en précisant que le dossier fait à peu près la moitié de la revue fait 150 et quelques pages, le dossier à peu près 80. Bon, 80 pages. Nous l'avons consacré pas simplement à la Nouvelle-Calédonie, mais à l'ensemble de la question du Pacifique. Je disais que la situation de la Nouvelle-Calédonie aura de toute façon un impact sur la Polynésie, mais aussi sur la puissance maritime française dans son ensemble. Je cite, j'ai interrogé l'auteur d'un ouvrage très intéressant, qui est à la fois un géopoliticien et un marin de la Marine nationale, qui est Richard Labeuvière, qui a écrit un très beau livre, Reconquérir par la mer. C'est le titre du livre. Il nous accorde un entretien. Reconquérir par la mer, reconquérir quoi? La souveraineté. La France a tous les moyens militaires, scientifiques, financiers, économiques et points d'appui pour retrouver une souveraineté par la mer, c'est-à-dire une puissance, donc une souveraineté par la mer, c'est-à-dire être, ce qu'elle est encore jusqu'à présent, une des plus grandes puissances maritimes du monde, et être même au premier rang des puissances maritimes. Et si nous maintenons nos points d'appui dans le Pacifique, nous avons d'énormes atouts pour plus tard. C'est pour ça que quelquefois, assez souvent d'ailleurs, je reprends ce qui cesse d'aller à dire, que la France n'est plus qu'une petite puissance. C'est oublié, et l'esprit contemporain n'y est que trop porté. Tous les atouts que nous avons, il n'y a pas simplement notre richesse économique, bien qu'elle soit mise en péril par des politiques imbéciles depuis 40 ans, il n'y a pas simplement notre siège au Conseil de sécurité, la francophonie, notre rôle en Afrique, notre réseau diplomatique. Il y a avant tout notre puissance maritime et elle a un aspect économique, je le disais tout à l'heure, quant à l'exploitation du fonds sous-marin, mais elle a aussi un aspect militaire.
Et donc il faut augmenter les crédits militaires.
Dans une période où s'affronte, avec une subtilité qui est difficile de démêler, et dont nous parle, c'est encore un autre entretien que nous publions dans ce numéro 5, celui-ci, avec un ancien chef du renseignement français qui est Alain Juillet, s'affronte avec des connivences étonnantes les deux puissances riveraines principales, les États-Unis d'un côté, de l'autre côté la Chine. Si la France reste, garde ses atouts dans cette partie du monde qui devient au fond le centre du monde, elle garde une dimension politique extraordinaire, politique et militaire. Je disais d'ailleurs que le Pacifique et est en train de devenir le centre du monde, c'est la lente évolution des centres du monde. À l'origine, elle a pu être asiatique, puis méditerranéenne, puis européenne, puis atlantique, puis américaine. Maintenant, elle est où il est, ce centre du monde, il est dans le Pacifique. Et je voudrais attirer l'attention des Français sur les énormes enjeux de puissance qui sont en train de se nouer dans le Pacifique. On va en parler de plus en plus souvent du Pacifique, on parle de la Chine, on parle de l'Australie. C'est bien dommage que nous ayons, à cause d'une impéritie et sans doute de trop de bavardage, perdu un énorme contrat il y a 2 ou 3 mois de sous-marins justement avec l'Australie. Mais ça veut dire qu'on est quand même très présent aussi en termes de fourniture de moyens militaires. Et évidemment, tous ces atouts dans les décennies qui viennent, on ne parle pas pour les mois qui viennent, on parle pour les décennies qui viennent, permettront à la France de jouer un grand rôle, surtout si elle ne s'aligne ni sur les États-Unis ni sur la Chine.
Mais est-ce que l'affrontement, Paul-Marie Couteau, l'affrontement, en tout cas, la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine n'offre pas précisément à la France une occasion de prendre quelques distances avec les États-Unis en excipant de cette puissance nouvelle de la Chine? Ou est-ce que tension met en danger la France aussi et serait de nature à resserrer nos liens avec les États-Unis?
Je ne crois pas que ce soit notre intérêt. D'autant que ces oppositions sont à lire. Vraiment, l'article là d'Alain Juillet est passionnant, c'est de la géopolitique pure. Et j'ajoute d'ailleurs un autre entretien que nous avons avec la présidente de GéoPragma, qui est certainement une des meilleures spécialistes de géopolitique française.
Caroline Galacteros.
Caroline Galacteros. Il y a 2 niveaux. Il y a les oppositions entre Pékin et Washington. Deux empires qui se font face de part et d'autre du Pacifique, avec des instruments de fragilité pour la Chine, enfin des objets de fragilité pour la Chine qui est son entourage proche, c'est-à-dire les îles du Japon jusqu'à Formose, qu'on appelle maintenant Taïwan, qui sont proche des États-Unis, et la Chine voudrait évidemment se défaire, et ça sera évidemment un objet de tension dans les prochaines décennies, de cet encerclement, de ce qu'elle vit comme un encerclement. Et puis, il y a en dessous de ce niveau d'affrontement principal entre les deux empires, Washington d'un côté et Pékin de l'autre, un ensemble de connivences très étonnantes, notamment, et nous l'avons mis dans le titre, entre la société civile américaine et notamment de l'Ouest américain, et notamment de la Californie, et la Chine, qui a beaucoup pénétré la dite société civile américaine. Trump, un jour, comme nos journalistes sont un peu tête en l'air, ils n'ont jamais remarqué une phrase de Trump sur laquelle je fais dans mon introduction un long commentaire, stigmatisant les universités et les laboratoires de la côte ouest, Oregon et Californie, et Silicon Valley en particulier, parce qu'ils coopèrent, disait-il, et je pense qu'il ne le disait pas en l'air, davantage avec les laboratoires et les universités chinoises qu'avec les autres laboratoires et universités des États-Unis. Comme s'il y avait une sorte de connivence souterraine, spontanée à cause de la géographie et surtout manipulée par l'infiltration des Chinois dans les universités et laboratoires américains, surtout américains de l'Ouest, et par-dessus tout, et là je voudrais finir là-dessus parce que c'est plus important que tout, je crois que vous avez été sensible, mon cher Luc, à cet aspect, parce qu'il communie dans une sorte d'extravagante extrapolation de ce que pourrait être la nature humaine.
Alors c'est Francis Jubert notamment qui le dit dans Océan Pacifique, des savants à la recherche d'une religion, l'une des contributions du dossier de ce numéro 5 du Nouveau Conservateur. Oui. Vous voulez parler, Paul-Marie Couteau, du lobby bioprogressiste.
Du lobby bioprogressiste, technoprogressiste, tous ces gens qui, alors en Chine, beaucoup plus qu'on ne le dit, parce que la Chine est tellement fermée qu'on ne sait pas exactement ce qui se concocte dans les laboratoires, qu'on fait Wuhan d'ailleurs en particulier. On en a vu une illustration de cette fermeture lors du début du Covid. et aussi dans certains laboratoires américains. Et je dis américains avec des grandes sociétés, ce sont les GAFAM qui veulent à peu près toutes maintenant installer, c'est très intéressant d'ailleurs, c'est même ça, ça a un aspect physique, installer leur siège au milieu de la mer, construire des sièges extraterritoriaux de toutes pièces. Vous savez, c'est ces villes maritimes maintenant qui vont devenir très à la mode. Même les Français font des villes maritimes. Mais enfin, les grandes entreprises GAFAM veulent échapper aux États-Unis. C'est pour ça que le dossier est extrêmement ambigu. S'installer dans le Pacifique, mer en principe calme, et se sentir aussi fondé que possible à collaborer ou non avec les Chinois, mais sans doute collaborer avec les Chinois pour créer un homme nouveau. C'est les grands délires du transhumanisme qui sont à la manœuvre, notamment chez Google. Puisque nous avons déjà, alors ça c'est dans un numéro précédent, vous savez, les conservateurs, le nouveau conservateur tel que j'entends en tous les cas, veulent réinstruire la civilisation chrétienne et la civilisation occidentale à la lumière de ce que pourrait devenir l'homme, le robot, comme disait Bernanos, l'homme du futur, qui est un homme qui a complètement perdu le paradigme essentiel chez les chrétiens, qui est la nature humaine. Et le mouvement conservateur s'instruira, se comprendra d'autant mieux qu'on comprendra ce à quoi il s'oppose, c'est-à-dire une formidable dénaturation de l'homme tel que les chrétiens le connaissent. Et si je m'intéresse au Pacifique, c'est parce que je sais que c'est là-bas, dans ces terres très éloignées de l'Europe chrétienne, que peut muter et que certains rêvent de faire muter l'homme.
Merci,
je ne peux pas m'étendre, ça serait beaucoup trop long, j'ai peur de déborder de mon temps de parole, mon cher Luc, et de préempter votre émission, mais l'essentiel de tout ça se trouve dans le dernier numéro sur le Pacifique, mon dossier est consacré au Pacifique, comme vous le disiez, mais aussi dans un numéro ancien, du printemps dernier, qu'on peut toujours se procurer, printemps 2001, les délires de la modernité, c'était notre dossier sur ce que vous appelez en effet le bioprogressisme ou le technoprogressisme, dont les horizons sont vertigineux et affreusement inquiétants. Voilà.
Merci beaucoup,
Paul-Marie
Couteau. Et si on comprend
ce que veut dire être conservateur aujourd'hui, il faut savoir à quoi on s'oppose, à ces vertiges-là.
Alors, le tout est à suivre, évidemment, dans ce trimestriel qu'est le Nouveau Conservateur, qui dispose de son propre site internet. J'espère que vous nous présenterez le numéro 6 qui paraîtra à la fin de l'hiver. Merci beaucoup, Paul-Marie Couteau.
Un tout petit mot pour dire, pardon, de cette petit aperçu publicitaire, mais vous savez, une revue ne vit comme Radio Courtoisie que de ses contributeurs d'une part, mais aussi de ses abonnés. Pour s'abonner, c'est-à-dire pour obtenir 4 numéros, soit aller sur le site du Nouveau Conservateur, ça coûte 50 euros, on peut payer en ligne, soit envoyer 50 euros à l'ADALI, qui est la société éditrice, ADALI, au 101 rue Axo, dans le 20e arrondissement, à l'attention du Guette Liverneau, que vous connaissez aussi bien que moi, mon cher Luc, 101 rue Axo, 75 020, 50 euros à tout le moins. On peut souscrire aussi 2 ou 3 abonnements si on veut faire des cadeaux de Noël pour ses amis. Et on peut aussi commander des numéros, enfin des exemplaires au numéro. Je parlais du numéro de printemps dernier, c'était le numéro 3 consacré au délire de la modernité. Il est assez croquignolé aussi.
Celui-ci, voilà, Chine, Californie, l'émergence de l'univers pacifique, numéro 5. Merci beaucoup, Paul-Marie Couteau. À bientôt.
Merci,
à très bientôt.
Mon cher Luc, pour votre amitié constante et fidèle. Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir, bonsoir, Paul-Marie Couteau. Chers auditeurs, Radio Courtoisie a pour vous un message.
Saviez-vous qu'en 2021, le montant de l'aide médicale d'État allouée aux immigrés illégaux a dépassé le milliard d'euros? Saviez-vous que l'AME représente ainsi 80% des crédits de la mission santé, dotée de 1,33 milliard d'euros, inscrite au budget de l'État? Vous avez jusqu'au 31 décembre minuit pour attribuer une partie de vos impôts à une cause qui compte réellement pour vous. En soutenant Radio Courtoisie, qui ne vit que grâce à ses auditeurs, vous défendez vos idées et nous permettez de dévoiler ces gaspillages jour après jour. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque à l'ordre de Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Sur le plateau de Radio Courtoisie, je reçois dans le libre journal des chevaux légers Serge Lebigot, président de l'association Parents contre la drogue. Alors, Serge Lebigot, Il nous faut parler des drogues, peut-être un sujet pour la présidentielle. On a dit déjà que c'était un sujet qui présentait un certain nombre d'enjeux politiques, locaux et nationaux. On peut commencer peut-être par un tour d'horizon ou tout au moins un point de situation. D'abord, pendant 2 ans, j'allais parler au passé, mais ce n'est pas terminé. Pendant 2 ans, la grande affaire, ça a été le confinement. Serge Lebigot, le confinement et la crise sanitaire, pardon. Quel est l'effet de la crise sanitaire sur la consommation de produits stupéfiants en France? Est-ce que cette consommation a augmenté? Est-ce qu'elle a baissé?
Alors, sur le cannabis, apparemment, ça s'est plutôt stabilisé. Il y a une consommation de toutes les drogues à l'heure actuelle. Moi, je suis effaré de voir surtout la cocaïne qui est en très grande augmentation. L'âge moyen maintenant, c'est 17 ans pour la cocaïne, donc il y a de quoi s'inquiéter.
Oui, alors je vous coupe un instant parce qu'effectivement, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l'OFDT, souligne dans une publication récente que pour la cocaïne, la voie aérienne a évidemment été rompue pendant un temps, puisque avec la réduction du nombre de vols, le phénomène des mules, c'est-à-dire ces passagers qui, à partir de l'Amérique latine, notamment de Guyane, portaient sur eux des capsules de cocaïne, des boulettes, ont été moins nombreux, mais la voie maritime a été maintenue et donc la cocaïne a continué d'arriver en Europe par conteneur. Et puis il y avait aussi un phénomène de stock, nous dit l'OFDT. Donc, apparemment, il y a des stocks conséquents en métropole. Et puis surtout, les réseaux sociaux se sont développés, notamment sur le réseau social Snapchat. On peut non seulement commander des stupéfiants, mais se les faire livrer. C'est-à-dire que la crise sanitaire a donné lieu à un envol des livraisons, y compris à domicile.
C'est l'ubérisation en fait, de la drogue depuis le Covid. Il faut parler aussi de ce qu'on appelle le dark web, en fait, où on peut se faire livrer toutes les drogues inimaginables par voie postale.
Alors le dark web ou toile noire,
c'est la face cachée du web en fait.
La partie de l'internet à laquelle on a accès difficilement.
Mais en vérité qui est très facile d'accès. Enfin n'importe quel gamin qui connaît un peu l'informatique sait comment s'en servir. Et à partir de là, on a de véritables supermarchés de la drogue. Mais pas que de la drogue bien sûr, des armes, des faux papiers, enfin de la pédophilie, tout ce qu'on peut trouver d'inimaginable. Et malheureusement...
C'est l'internet de la criminalité.
C'est l'internet de la criminalité. Tout le monde le sait, c'est très très dur à remonter puisque malheureusement, pour accéder à ces endroits-là, il y a plusieurs moteurs de recherche cachés. C'est très dur pour les policiers, c'est des enquêtes très compliquées. Souvent, c'est des enquêtes internationales. Il y a pas longtemps qui s'est fait arrêter, il y a tout un réseau qui s'est fait arrêter sur le dark web. Mais on peut commander toutes les drogues. Moi, je me rappelle, il y a 6 ans environ, avec un de mes amis journalistes à Valeurs Actuelles, on avait fait une opération sur le dark web et on avait commandé de la drogue sur le dark web. Pour faire voir, c'était très facile. On avait commandé cocaïne, héroïne, enfin tout ce qu'on pouvait trouver comme drogue. Ça a été livré par la voie. 3 jours après, on recevait ça par la poste, donc très bien emballé.
À votre domicile?
Pas à mon domicile, ce que je voulais pas, mais au journal Valeurs Actuelles. Donc, c'était fait sous contrôle de la police. Et
le règlement s'est fait de quelle façon?
Le règlement s'est fait en ce qu'on appelle les monnaies, donc crypto-monnaies en bitcoin. Et on a payé ça, donc c'était amusant, enfin c'était amusant oui et non, mais sur les sites, il y avait un classement un peu comme on pourrait classer les sites de vente.
Des avis de consommateurs.
Donc très bonne qualité, fournisseurs très sérieux, et donc il y avait des temps, et donc on a pris un qui était en banlieue parisienne en fait, puisqu'on sait à peu près d'où ils sont situés. Et 3 jours après, on recevait la marchandise, donc sans aucun problème, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Alors, ce qui est dangereux, c'est que, par exemple, on avait commandé de la cocaïne, ils garantissaient de la pure, ce qu'on appelle la numéro 9, donc elle allait pure à 100%. Et j'ai un ami qui fabrique des tests de drogue, donc on l'a emmené tester, et lui n'y croyait pas du tout, il m'a dit on n'en trouve pas en France, et en fait, quand il l'a testé, il n'en est pas revenu, c'est de la pure. C'est-à-dire qu'un gamin qui prendrait ça, il se ferait forcément une overdose aussitôt.
Alors, cette opération, vous l'avez menée avec un journaliste, Serge Lebigot, dans un but de démonstration.
Voilà.
Et en toute opposition aux stupéfiants, et évidemment sans consommation, ni de votre part, ni de la part du journaliste.
Non. C'était vraiment pour faire voir. D'ailleurs, on l'a remis à l'époque à un député qui était Bernard Debré. Et on lui a fait voir, et lui avait crié au scandale en disant « il faut faire quelque chose sur le dark web, c'est scandaleux ce qui se passe ». Et effectivement, à l'heure actuelle, on voit bien qu'en dehors de Snapchat et tout ça, le dark web...
Parce que les réseaux sociaux, pardon de vous couper, Serge Lebigot, c'est plus simple encore. Pour le coup, tout le monde peut accéder à un réseau social.
C'est vraiment très très simple.
Et en particulier, un mineur.
Oui,
parce que Snapchat s'adresse essentiellement à des
mineurs. Et encore, si on prend sur le cannabis, il n'y a même pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux. Sur Google, d'ailleurs nous on l'avait fait sur Google, on peut commander en Hollande du cannabis tant qu'on veut. Ça nous a été livré par la poste. en provenance de Hollande.
Et ce que dit la Poste, la Poste sait-elle qu'elle achemine ces produits interdits? Est-ce qu'elle peut chiffrer ou évaluer
ces
flux?
Ils sont incapables de chiffrer.
Est-ce qu'elle prend les mesures?
Par contre, il y a des douaniers qui travaillent donc à l'envoi et la réception des colis. Il y a des chiens policiers, sauf qu'ils prennent, on va dire, un colis sur 1000. Et encore, c'est peut-être un sur 10 000, j'en sais rien. C'est inchiffrable tellement qu'il y en a. C'est des quantités. Et puis, c'est tellement bien emballé. C'est très, très dur à détecter. Et il n'y a pas assez de monde, je pense, au niveau des douanes pour contrôler tout ça.
Et votre association, Parents contre la drogue, Serge Lebigot, alors, elle mène des opérations de prévention. Vous pouvez nous détailler ces opérations. Est-ce qu'elle a pu les mener pendant la crise sanitaire?
Alors, malheureusement, non, puisque ça fait 2 ans qu'on est totalement réduit à ne pas faire de prévention dans les écoles, collèges et lycées principalement. Je ne reçois plus de jeunes dépendants, puisque je recevais beaucoup de parents qui me contactaient pour dire que mon fils est dépendant surtout du cannabis à 98%. Et malheureusement, depuis le Covid, j'ai totalement arrêté. Alors, on continue d'autres opérations, parce qu'en ce moment, donc, on lutte sur les projets sinistres de M. Véran et de Mme Hidalgo, donc pour ouvrir d'autres salles de shoot. Et on continue aussi à faire. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai aidé Louis Alliot, parce que la police municipale, c'est quand même quelque chose qui est surprenant, ne peut pas pratiquer les tests de drogue en France. Et je lui ai dit, si, on peut le faire. Par contre, c'est pas normal que les policiers municipaux n'aient pas de test de drogue quand ils arrêtent une voiture. Surtout dans la ville de Perpignan, par exemple, la plupart des jeunes qui s'arrêtent, ils sont sous l'emprise du cannabis. Et donc, je lui ai fait une démonstration des tests. Et du coup, maintenant, les policiers municipaux de Perpignan sont équipés de tests de drogue de cannabis.
Et donc, ils peuvent pratiquer ces tests
sûr, exactement.
Et interpeller ou imposer une amende forfaitaire délictuelle.
Alors, pour l'amende, ils ont pas le droit de la mettre, puisqu'ils sont obligés d'appeler les services de police. Mais ça leur permet quand même de gagner du temps et de dire, voilà, au moins on sert à quelque chose et on fait un travail qui est vraiment en conséquence contre la drogue.
Puisque nous parlons de cannabis, je poursuis donc cette lecture du texte de l'OFDT. C'est une étude intitulée « Les addictions en France au temps du confinement ». Dites-moi si vous êtes surpris par ce chiffre, Serge Lebigot. On lit que les usagers, pendant le confinement, ont fumé en moyenne un joint de plus par jour de consommation. Alors, pas par jour de consommation. C'est-à-dire qu'il y a un effet des multiplicateurs en raison ou cumulatif, en raison de l'isolement, en raison peut-être de poussée d'anxiété liée à cette situation.
Je pense que c'est plus des poussées d'anxiété, le fait de ne pas sortir. Enfin, les jeunes sont restés confinés totalement. Donc, on voit bien ce qui a beaucoup marché, ce sont les jeux vidéo. Donc, des gamins se sont mis dans les jeux vidéo 24 heures sur 24. Effectivement, le cannabis, et même si je dis la consommation s'est stabilisée, effectivement, le confinement a poussé des gamins à consommer beaucoup plus.
Alors qu'à l'inverse, ceux des consommateurs qui étaient vraiment de tout petits consommateurs, des consommateurs très irréguliers, eux ont pu parfois reculer devant les difficultés d'approvisionnement et mettre un terme au moins provisoire à leur consommation.
Beaucoup ont stoppé ou même beaucoup diminué leur consommation justement du fait de la difficulté de s'approvisionner. Les routes, même maritimes, étant quand même très dures à passer pendant le confinement, surtout la route Maroc-France, puisque le Maroc avait bloqué toutes ses frontières, effectivement c'était beaucoup plus dur d'importer du cannabis. Ça séchait un peu le marché, on va dire.
Puisque le Maroc exporte, je crois, vers la France 4500 tonnes de...
Alors, il faut quand même savoir que moi, c'est toujours quelque chose qui me surprend, parce que j'entends très souvent le ministre de l'Intérieur dire... il oublie juste le premier problème, en fait. C'est-à-dire que c'est très bien, il faut taper sur le consommateur, je suis tout à fait de son avis. J'ai participé à la commission d'enquête sur l'amende forfaitaire, et j'ai poussé pour ce qui est aussi une amende. On tape sur les dealers, c'est très bien, mais le vrai problème, c'est qui fabrique. Et à un moment, il va se poser la question. À un moment, est-ce qu'on ne peut pas taper du poing sur la table au Maroc et dire maintenant c'est stop, parce qu'on sait très bien que le Maroc, tout passe là-bas. Il suffit de payer les policiers, les douaniers, les gendarmes, les militaires, et on peut passer tout ce qu'on veut.
Et là, ce sont des arbitrages géopolitiques.
C'est des arbitrages.
On ne prend pas du tout le chemin.
Non, c'est un arbitrage géopolitique, et à un moment, il va falloir se poser la vraie question. 98% du cannabis en Europe, il provient du Maroc. Ce qui est énorme. Or, personne ne réagit.
Et les pouvoirs publics marocains, pas plus que
les pouvoirs publics, je pense qu'eux, ce qu'ils préservent, c'est la paix sociale dans le Rif marocain, parce qu'il y a quand même deux guerres civiles dans le Rif marocain, et je pense qu'ils préservent la paix sociale, et pour garder la paix sociale, on laisse faire, en fait. Donc il y a de plus en plus de cultivateurs, alors qu'on pourrait très bien éradiquer. Les Américains l'ont fait avec le pavot. Enfin, on peut jeter des tas de produits chimiques s'il le faut. Et à un moment, dire c'est stop, il faut arrêter. Et surtout, moi, ce qui me surprend tout le temps, c'est de savoir que le Maroc a rompu depuis une quinzaine d'années tous les coordinations de police entre le Maroc et la France. C'est-à-dire que maintenant, les policiers, quand ils poursuivent un gros trafiquant marocain, une fois qu'il est au Maroc, on ne peut plus rien faire. Quoi.
Parce qu'il n'y a pas de convention d'extradition.
Il n'y a plus d'accord. Il y avait des accords, et puis depuis 15 ans, c'est rompu. Je pense que le Maroc n'a pas trop intérêt à faire enfermer. Ça rapporte tellement d'argent au Maroc aussi, le trafic de stupéfiants.
En tout cas, il y a un levier dans la discussion avec le Maroc, qui est la question du Sahara occidental.
Bien sûr.
Qui n'est pas du tout une zone de production de cannabis, puisque c'est l'opposé par rapport au RIF, par rapport à la montagne septentrionale au Maroc, mais c'est aussi un élément à valeur géopolitique. Je voudrais que vous nous disiez un mot, Serge Lebigot, de la salle de shoot, de la salle de consommation à moindre risque, de la salle d'injection supervisée qui se trouve dans l'hôpital Lariboisière, enfin dans l'enceinte de l'hôpital Lariboisière, dans le 10e arrondissement de Paris.
Elle appartient de l'hôpital. Le problème, c'est que tout ce qu'on avait dit quand on a porté plainte, puisque en 2013, j'ai attaqué donc, les pouvoirs publics avec notre avocat, et on a porté plainte contre Marisol Touraine, contre le Premier ministre.
Alors, qui était ministre de la Santé.
Marisol Touraine, qui était ministre de la Santé, était contre le Premier ministre, qui était, j'ai oublié son nom, socialiste.
Qui était Manuel Valls.
Non, avant.
Alors, ça va me revenir pour suivre.
Oui, moi aussi, j'ai un trou. Et contre la maire de Paris, donc... Donc le Conseil d'État nous avait donné raison, ça a reculé de 2 ans et demi l'ouverture de la salle de shoot. Évidemment, les socialistes sont au Parlement étant majoritaires, l'ouverture a été autorisée. Sauf que maintenant, on en arrive...
Quel était le motif de ce dépôt de plainte de votre côté?
Alors le dépôt de plainte, c'était mise en danger et surtout facilitation de l'usage et de la consommation de stupéfiants et du trafic de stupéfiants.
Ce qui est contraire à la législation.
Ce qui est contraire à la loi 1970. Exactement. Donc,
la loi réprimant l'usage, le transport, la production, etc.
Et le Conseil d'État, voyant ça, a dit effectivement, l'association a raison, il faut créer une nouvelle loi. Donc ce qui a été fait, malheureusement. Mais partant d'une salle de shoot et sachant ce qui se passe autour, où c'est catastrophique, puisque je veux dire, les loyers ont baissé, il y a des incivilités partout, des seringues, il y en a toujours autant, donc ça n'a rien changé. Même si l'association Gaïa, qui gère la salle de shoot, en ramasse de temps en temps, mais ça ne change absolument rien. Là, on est dans la pure hypocrisie, c'est-à-dire que Hidalgo, voyant que les riverains se mobilisaient, a demandé à Gaïa ramasser de temps en temps des seringues. C'est n'importe quoi. Il y a autant d'agressions autour, parce qu'on n'empêche rien. Il faut quand même savoir qu'autour d'une salle de shoot, il y a un périmètre dit de sécurité, donc en général entre 200 et 300 mètres, la France a pris 300 mètres, où la police, on leur demande ouvertement de dire mettez des œillères et évitez de contrôler les toxicomètres transportent des stupéfiants.
Donc c'est une zone de non-droit,
c'est
en tout
une
cas
zone
une zone
de
suspension
que, bien sûr.
De la législation sur les stupéfiants.
Oui, parce que le dealer qui n'est pas stupide ne transporte qu'une dose sur lui à chaque fois. Le reste est planqué dans des voitures, ce qu'on appelle des voitures relais qui traînent un peu partout. Et en fait, s'il se fait arrêter, ah ben non, désolé, je suis consommateur, je vais à la salle de shoot. Donc évidemment, il n'y a aucun moyen de contrôle.
Et donc pendant ces deux années, ces deux années à l'intérieur de la salle de shoot donc du 10e, il y a une salle d'injection, une salle d'inhalation, une salle de repos. Les salles d'inhalation et de repos, elles ont fermé. Mais la salle d'injection, dite supervisée, vous avez démontré, Serge Lebigot, que ce n'était pas de la supervision.
Il n'y a rien du tout de supervision. Parce qu'en vérité,
cette salle est restée ouverte.
Cette salle est restée ouverte. Alors en vérité, le toxicomane arrive avec sa dose. Il se pique, mais on ne sait pas quel produit il s'injecte. Il peut très bien s'injecter du Subutex, qui est quand même un produit vendu légalement.
Un traitement de substitution.
Ce qu'on appelle traitement de substitution, parce qu'il y en a deux, Subutex et Méthadone, qui ne sont pas des produits normalement faits pour être injectés. Mais tous les toxicomanes avec qui j'ai pu parler disent « quand je n'ai pas d'argent, je m'injecte du Subutex ou de la Méthadone, puisque là, c'est fourni gratuitement ».
Parce que c'est prescrit médicalement.
C'est prescrit par
traitement de substitution à l'héroïne.
À l'héroïne. Sauf
que l'héroïne elle-même avait été inventée comme traitement de substitution à la morphine.
Exactement. Et par exemple, les Suisses distribuent de l'héroïne gratuitement dans ce qu'on appelle des cliniques d'héroïne. Je pense qu'à un moment, si on continue dans cette voie-là, les associations, moi je les appelle les Monsieur Plus, parce qu'en vérité, ces associations-là en veulent toujours plus. Ça représente, ils sont une vingtaine d'associations qui sont financées à coups de millions d'euros. Et en vérité, quand on regarde bien, la salle n'était pas justifiée, puisqu'en France, les programmes dits de réduction des risques, c'est-à-dire distribution de seringues, distribution de kits et de tout ça pour sniffer ou spiquer propre, ça existe depuis les années 80. Donc on n'avait absolument pas, contrairement à la Suisse ou à certains pays, on n'avait pas besoin de salles de shoot. Mais ces associations qui veulent toujours plus de subventions ont compris que ça, il faut savoir qu'une salle de shoot, ça coûte 1 200 000 euros chaque année.
À qui ?
À l'association. Donc, qui va
en... Et dans le cas de celle du dixième qui a déjà ouvert ses portes.
Qui a déjà ouvert, donc évidemment c'est 1 200 000. Alors le résultat, quand on leur pose la question pour quel résultat, zéro, mais le but n'est pas de sortir Toxigone. Donc ça sert à quoi ?
Vous dites zéro parce que après l'expérimentation, évidemment, la salle de shoot a trouvé une pérennité dans le 10e arrondissement et l'INSERM a publié mars dernier... un rapport d'activité sur cette
salle de shoot. Il y a un rapport qui est vraiment, c'est scandaleux. Et d'ailleurs, moi, je disais ouvertement à la journée, je pense qu'à un moment, il faut couper les subventions à l'INSERM parce que c'est vraiment scandaleux. Ça fait le deuxième
rapport. On n'en prend pas le chemin. On a déjà trouvé trace de l'INSERM dans l'affaire de la COVID-19.
Ils avaient fait un rapport avant sur la légalisation du cannabis qui était aussi dans le même sens, c'est-à-dire qu'il faut légaliser. Et la responsable de l'INSERM a fait il n'y a pas longtemps une réunion avec ASUD, donc une des associations pro-drogue qu'on peut trouver. Et elle reconnaît ouvertement qu'il faudrait à un moment aboutir au moins la dépénalisation de toutes les drogues, voire même la légalisation.
Donc l'INSERM est acquise à la réduction des risques et au moins pour partie, plus généralement, à l'assouplissement de la législation relative
sur les drogues. Et ce qui est scandaleux, c'est quand dans le rapport, en réponse aux riverains qui disent qu'il y a de l'insécurité, la réponse de l'INSERM, c'est non, il y en a beaucoup moins parce que maintenant l'association ramasse les seringues. Mais c'est quoi le rapport entre la sécurité et le ramassage des seringues ?
Vous savez, Serge Lebigot, que les riverains s'en plaignaient
bien sûr.
Du nombre de seringues.
Et il y en a toujours autant.
Trouvées dans les caniveaux.
Et les gardiennes reconnaissent qu'il y en a toujours autant. Ça n'a pas changé. Il y a toujours autant d'agressions. Il y a du trafic en quantité. Ça ne change absolument
pas. Parce que la consommation, Serge Lebigot, n'a pas lieu à l'intérieur de la salle
alors
qu'elle était ouverte.
Mais ça, c'est prouvé dans les quelques pays. Parce que souvent, j'entends dans le monde entier, mais il n'y a pas des salles de shoot dans le monde entier. Il y a une quinzaine de pays qui ont des salles de shoot.
Donc c'est en Belgique, au Luxembourg,
principalement en Europe. Il y en a deux en Australie.
Au Canada.
Une au Canada, et sinon c'est tout. Donc et le reste sont Suisse, Allemagne, Luxembourg, France. Donc c'est quand même très très limité, surtout à l'Europe.
Occidentale.
Oui, l'Europe occidentale et la Hollande, bien sûr, qui a plusieurs salles de shoot. Mais ce qu'on peut constater dans ces pays-là, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre une salle, donc en vérité, le toxicomane, normalement, la salle est censée contrôler pourquoi vous venez dans la salle. Donc, ça, c'est un petit discours qui dure 20 minutes. Le toxicomane qui n'a pas du tout envie d'entendre ce baratin-là, lui, ce qu'il veut, c'est se shooter tout de suite ou se piquer, pour parler français. Donc, il va soit faire une consommation dans la salle de shoot, le reste, il va aller dans les portes cochères parce qu'en vérité, il ne va pas aller deux, trois fois dans la journée dans la salle de shoot. Et ça, toutes les scientifiques du monde entier l'ont prouvé. C'est faux de dire qu'un toxicomane retourne 5-6 fois dans la salle de shoot. Et ce sera encore pire pour le crack, sachant qu'un cracker, il a besoin de sa dose pratiquement toutes les 1 ou 2 heures. Il n'ira jamais toutes les 1 ou 2 heures dans une salle d'inhalation.
Donc, ça signifie qu'en fait, sous couvert de créer une salle de shoot pour retirer de l'espace public ces consommateurs compulsifs, non seulement on fait en réalité un quartier de shoot, non seulement pour les consommateurs dont vous dites qu'ils se piquent, qu'ils s'injectent des stupéfiants tout autour de la salle, mais aussi un quartier de shoot pour les revendeurs de drogue, pour les trafiquants, puisqu'ils circulent en toute impunité autour de cette salle.
C'est exactement ça. En fait, on crée, et d'ailleurs c'est ce qu'est en train de faire Hidalgo, elle va créer des lieux de fixation de la drogue. Alors principalement, d'ailleurs, c'est assez amusant, dans le nord-est parisien, parce que surtout pas dans l'ouest parisien, et surtout pas chez les bobos du centre parisien. Donc dans le nord-est, elle va fixer la toxicomanie dans le nord-est parisien, puisque les salles de shoot, si on regarde, j'avais eu l'occasion de voir un plan, c'est principalement 10e, 18e, 19e, 20e.
Ah oui, non, mais ce sont des quartiers qui sont, nonobstant la création des salles de shoot, sont plutôt en embourgeoisement, je ne dirais pas gentrification.
Plutôt boboisation, moi je dis, parce que c'est...
Même le sud du 10e arrondissement, c'est-à-dire les grands boulevards, la lisière avec le 2e arrondissement, qui est un quartier historique, un arrondissement historique de Paris, sera touché peut-être prochainement par l'évolution d'une HAS en une
alors,
nouvelle salle
à côté du musée du chocolat en plus.
Oui, c'est à la station Bonne Nouvelle.
Voilà, c'est ça. Alors, il faut...
Donc ça s'étend à des quartiers qui sont plus populaires.
Ça s'étend.
Depuis longtemps.
Moi, j'ai proposé, donc j'ai fait une pétition donc il y a un mois. Et dedans, je dis à Madame Hidalgo que la prochaine salle de shoot, il faut la mettre à côté de l'hôtel de ville.
Elle ne répond pas.
elle répond pas. La pétition a déjà atteint et même dépassé les 22 000 signatures en un mois. Et je compte bien, j'attends, puisque j'espère arriver aux 50 000, et j'écrirai à Madame Hidalgo en lui disant que je lui propose d'en ouvrir une bah, juste à côté, peut-être à côté du BHV, ou pourquoi pas demander au BHV d'ouvrir un endroit pour mettre... Parce qu'après tout, comme elle est capable de les déplacer, ça fait quand même, il faut savoir, 30 ans que ça dure, où on emmène des cars de temps en temps quand la population réagit un peu trop, et puisque nous, on a eu le cas Max Dormois, donc j'ai vu comment ça se passait, au bout d'un moment, on décide qu'on fait un peu trop de manifestations, donc on appelle la préfecture, qui emmène des cars, on prend les toxicomanes, on les déplace d'un endroit. C'est ce qui s'est passé avec le jardin des Halles aussi, on les emmène à la Villette. Et puis quand la population va manifester un peu trop, ben on les emmènera encore ailleurs. Donc pourquoi pas...
Là, ce n'est pas pour faciliter leur consommation, c'est pour les retirer du paysage.
Alors c'est juste pour les retirer du paysage, parce que là, les gens manifestent un peu trop, la presse s'en est mêlée, donc il y avait un peu trop de publicité, ça ne plaisait pas. Et donc on les a mis, alors à la Villette, ils en sont entre 800 et 1000, d'après ce que j'ai vu le dernier chiffre ce matin. Donc, et puis ça va continuer, il faut savoir que c'est quand même un parc du crack.
Donc, et les riverains n'ont pas de recours, ni médiatique, ni judiciaire, alors, en tout cas de recours suffisants.
Ils ont des recours, mais...
La pérennisation de ces salles
le gros problème, c'est que moi j'ai essayé de travailler avec les riverains plusieurs fois, c'est un peu compliqué, parce que le problème, bon, j'ai quand même l'habitude, ça fait 25 ans que je m'occupe de ça, quand on leur dit qu'il faut porter plainte, il faut attaquer l'État et tout, ils ne le font pas, ils mélangent un peu tout, je veux dire... Parce que c'est le fameux problème du 93, oui mais c'est parce qu'on est immigré, mais ça n'a aucun rapport, je veux dire, à un moment il faut se poser la vraie question, c'est le vrai problème, c'est qu'on déplace la drogue, parce qu'effectivement il y a un jardin qui est à la lisière du périphérique, et là on se dit, tiens, on met les toxicomanes, et puis demain, puis on les renverra peut-être à Max Dormois, ou peut-être à Stalingrad, mais de toute façon c'est toujours dans un périmètre très restreint.
Mais alors quelle est la gêne des riverains? Les riverains ne prennent pas position contre les dispositifs eux-mêmes, alors, mais demandent leur éloignement?
Ils les prennent, mais ils se font rattraper par la politique, puisque alors c'est assez amusant parce qu'ils manifestent, mais il y a donc le Parti communiste qui manifeste avec eux, les socialistes, alors que ce sont tous des gens qui sont pour les salles de shoot. Donc là, on se dit, mais comment on peut se faire manipuler à ce point-là ? Mais oui, bien sûr, ils se font manipuler totalement. Il y a même les gens de la France Insoumise. Enfin, moi, je vois Obono quand je l'entends parler, mais je me dis, mais c'est pas possible.
Parce que Daniel Obono est favorable à la salle de shoot ?
Elle est favorable même à la légalisation de toutes les drogues. Et elle le dit ouvertement, en plus. Et comment ces gens-là peuvent manifester ? Alors, ils manifestent pas vraiment pour les mêmes intérêts. Ils manifestent parce que c'est Darmanin qui a mis les gens là-bas, et donc, évidemment, il fallait manifester, quoi.
En tout cas, avec Anne Hidalgo, vous avez une candidate à la présidentielle. Je ne sais pas, on ne sait pas si elle parviendra jusqu'à la présidentielle, primaire de la gauche ou pas primaire de la gauche. Mais vous avez, en la personne du maire de Paris, responsable de l'ouverture de cette première salle de shoot et désireuse d'étendre le dispositif, quelqu'un qui se présente à la présidentielle. Est-ce que vous avez l'espoir que les candidats, Serge Le Bigot, se saisiront de la question ? La question, c'est les salles de shoot et peut-être demain les salles de crack. On parlait de quart de crack il y a 2 ou 3 ans. Et puis peut-être plus généralement de la question des stupéfiants, de la toxicomanie dans notre pays. Il faut dire tout de même que, pour ne citer que le cannabis, il y a en France 18 millions d'expérimentateurs, dont 5 millions d'usagers dans l'année, dont 1,5 million usagers réguliers, dont 900 000 usagers quotidiens. Chiffre de juin 2019 donné par l'OFDT. Alors, c'est énorme. Est-ce qu'il n'est pas difficile tout bonnement de maintenir une législation proscriptive quand la pratique est si répandue ?
Alors, en fait, le vrai problème de la France, et ça fait des années que je le dis, c'est qu'en France, on n'a rien fait pour la prévention. Donc, en vérité... contrairement aux pays du nord de l'Europe, donc Suède, Finlande, Islande, enfin tout ça, qui ont tout axé sur la prévention, et on voit bien que ça fonctionne, puisque la Suède est un des pays qui a le moins de consommateurs de stupéfiants, toutes drogues confondues. D'ailleurs, c'est le pays que l'ONU dit qu'il faut prendre son modèle pour copier, puisque ça marche vraiment. Qu'est-ce qui se passe en France ? On n'a jamais fait de prévention. Donc il n'y a pas de grande campagne de prévention. D'ailleurs, il y a des préventions sur la cigarette, sur l'alcool, sur tout un tas de sujets, mais pas sur la drogue.
Alors, parce que la question, Serge Le Bigot, si je vous comprends bien, on la place un peu trop facilement sur le terrain de la répression en opposant artificiellement les tenants réels ou imaginaires de ce que l'on appelle péjorativement, dépréciativement, la guerre contre la drogue.
Contre la drogue.
Et puis, de l'autre côté, des gens qui seraient très permissifs, très laxistes. Vous, ce qui vous intéresse, c'est davantage la prévention que la répression.
Bien sûr. Alors, il faut, c'est un tout en fait. Il faut de la prévention dans les écoles. Si on commence pas, et moi je dis ce qu'on appelle, ce que l'ONU appelle la prévention primaire, c'est-à-dire dès le CM2. On sait qu'en quatrième...
Les enfants qui ont 9 ans, 10 ans.
Qui ont 9 ans, 10 ans, il faut commencer avec alcool, tabac. Et ensuite, dès qu'ils arrivent en sixième, on parle du cannabis. Pourquoi ? En quatrième, 11% des enfants ont déjà essayé le cannabis. C'est énorme, 11%. Parce qu'en quatrième, c'est quand même des très jeunes.
Oui, ce sont des enfants de 13 ans, 14 ans.
Dès qu'on arrive en troisième, de 11%, on passe à 18%. Et ainsi de suite, et on monte sans arrêt. Donc là, on a un véritable problème. On n'a pas de campagne de prévention. La prévention est faite des fois par des associations qui militent pour la légalisation. Donc on peut se poser les questions, qu'est-ce qu'ils racontent aux gamins ? Donc tout ça, ça n'a pas été fait. La prévention, elle fonctionne. Mais il faut savoir que moi, j'ai été surpris que, quand j'ai participé à l'enquête parlementaire sur l'amende forfaitaire. C'est-à-dire qu'en fait, je disais, les trois quarts des gens qui consomment dans la rue, ce sont souvent des adolescents. Il suffit d'aller voir des squares autour des collèges et lycées. C'est rempli de consommateurs de stupéfiants, et en particulier dans l'Ouest parisien. J'ai eu l'occasion, je fais beaucoup de prévention dans l'Ouest parisien et je sais très bien, je le vois très souvent. Le problème, c'est que effectivement, la loi ne permet pas de mettre des amendes à des enfants mineurs. Donc, on sanctionne les majeurs, les mineurs passent à la trappe. Or, c'est eux les plus concernés, puisque les plus fragiles sur le cannabis, c'est eux.
Bon, il n'y a pas que cela. Avant même la question des mineurs et des majeurs, Serge Le Bigot, on peut se demander pourquoi les consommateurs semblent si souvent davantage poursuivis que les trafiquants. Alors, évidemment, les consommateurs sont plus nombreux que les trafiquants, mais... Il y a quelque chose de déséquilibré à poursuivre si aisément, parfois pour faire du chiffre, c'est peut-être un peu moins le cas maintenant.
C'est
moins
le cas. On
est revenu des grandes années Sarkozy où il fallait remplir des tableurs avec des chiffres d'interpellation. Mais pour autant, on a souvent l'impression que l'effort se porte surtout sur les consommateurs.
Alors oui et non, il faut savoir que la drogue c'est un commerce. Moi je prends souvent un exemple et je dis, vous ouvrez une bijouterie. Vous pouvez vendre le plus beau bijou du monde. Si vous n'avez pas un client, vous tirez les rideaux, ça ferme. La drogue, c'est exactement pareil. Si demain, il n'y a plus de clients, les dealers, ils vont disparaître. C'est très clair. Ensuite, il y a la répression qui ne se fait pas. Parce qu'effectivement, on arrête un dealer. Très souvent, il suffit de regarder la presse, je le fais moi tous les jours. Il a pris 12 mois de prison, dont 11 avec sursis. En clair, il n'a pas eu de sanction. Et comme je le disais tout à l'heure, les gros... ce qu'on appelle les gros trafiquants, je crois qu'il y en a 19 qui sont recherchés à travers le monde. Ils sont très souvent au Qatar, dans les pays de ce coin-là, au Maroc et en Algérie. Or, on ne peut jamais aller les poursuivre. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que de ces pays-là, ils continuent leur trafic. Puisqu'il faut savoir que les dealers en France, ce ne sont pas forcément les très gros. Les très gros, ils sont pas ici. Et en vérité, pour arrêter un dealer, il y en a un qui s'est fait prendre il n'y a pas très longtemps. Il s'est fait arrêter parce que le pays, un pays voisin du Qatar, a bien voulu l'extrader. Mais c'est un parmi le reste. Ceux qui sont en Algérie, on n'arrive pas à les avoir. Ceux qui sont au Maroc, on n'arrive pas à les avoir. On devrait avoir... Et c'est là qu'il faut dire au Maroc, maintenant c'est stop, la plaisanterie, c'est terminé. Il n'est pas normal qu'on sacrifie des milliers de familles françaises, tout ça pour dire on va laisser le Rif marocain cultiver du cannabis à outrance et de plus en plus fortement adossé, parce qu'il faut quand même savoir que le cannabis ça monte de plus en plus. On a des variétés à l'heure actuelle entre 35 et 45%, ce qui sont énormes.
Et alors 35 à 45%
de THC, donc la molécule du cannabis.
Hydrocannabinol, l'une des molécules.
Enfin, la principale molécule,
la principale,
en fait, puisque.
Qui n'est pas le cannabidiol.
Qui n'est pas le cannabidiol où on fabrique CBD. Le CBD, parce que le CBD en réalité à moins de 2% de consommation, mais même. À l'heure actuelle, tous les addictologues commencent à s'inquiéter en disant on n'a pas de recul sur CBD, est-ce que dans quelques années, on ne va pas avoir des problèmes aussi avec le CBD ?
Et là, c'est possible que l'usage soit interdit d'ailleurs prochainement.
Oui, mais d'ailleurs...
Malgré l'ouverture d'un nombre très
important
de boutiques
CBD. Il était interdit en France,
il
faut quand même savoir que c'est, on a été condamné par l'Europe qui nous a obligés à ouvrir des boutiques de CBD.
Au nom de...
au nom de l'égalité européenne, enfin, c'est la stupidité qu'on trouve à chaque fois...
Alors, pour vous, il faudrait que la question des drogues soit un critère de notre politique étrangère, si je vous entends bien.
Alors, il faudrait que ce soit un critère. Il faudrait que pour une fois, et je dis bien pour une fois, parce que je vote quand même depuis très longtemps, à chaque élection présidentielle, le seul sujet dont personne ne parle, c'est la politique de drogue. Et c'est quand même surprenant, parce que à part quelques-uns qui vont militer, on entend toujours Mélenchon et quelques-uns d'autres, il faut légaliser, mais ça s'arrête là. On n'a pas vraiment de gens... que ce soit à droite, même à l'extrême droite, ou même Éric Zemmour, je ne sais pas s'il en parlera, mais personne ne parle de la politique de drogue en France qu'on doit mener.
Valérie Pécresse avait pris des mesures à la tête de la région Île-de-France.
Alors,
est-ce qu'elle n'avait pas introduit les tests en lycée,
alors,
au moins brièvement?
Alors non, pas du tout, parce que ça c'est une promesse que j'ai eu l'occasion de la rencontrer, donc pas cette élection-là, mais donc il y a 7 ans en avant. Et je l'avais rencontrée donc, dans le 18e, et je lui avais parlé des tests, et elle m'avait promis qu'elle ferait les tests de drogue dans tous les lycées, puisque c'est elle qui est responsable des lycées d'Île-de-France.
Et en fait, parce que c'est une compétence du conseil régional.
Exactement, sauf que ça ne s'est jamais fait. Elle en a parlé dans la presse en disant « je vais lancer les tests de drogue », et puis c'est un sujet qui a été totalement abandonné.
C'était des tests obligatoires sur des mineurs qui se trouvent être lycéens.
Exactement, c'est-à-dire que comme ça se passe dans plein de pays européens, et comme ça se passe aux États-Unis, dans plein de pays, c'est-à-dire que des gens vont, ils prennent, c'est ce qu'on appelle les tests aléatoires, on prend dans une classe, et ben, sur 30 gamins, on en prend 15, et puis allez hop, on fait un test salivaire, c'est très facile à faire, ça prend 2 secondes par enfant.
Et quelles sont les suites des tests positifs?
Alors, les tests positifs dans les pays du Nord, c'est de dire, déjà, on prévient les parents. Parce que contrairement à la France, où les parents, les 3/4 des parents ne sont pas au courant que leur enfant consomme, sauf quand c'est trop tard. Donc, je reçois des quantités, donc je sais comment ça se passe. Et c'est de dire à un moment, ces enfants-là, est-ce qu'ils ont consommé juste une fois, comme tout à l'heure tu disais, il y a 18 millions qui ont essayé, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont continué. Donc, est-ce qu'ils font partie de ces 18 millions qui ont essayé une fois mais qui ont arrêté, soit ils ont été malades, soit ils se sont fait prendre tout un tas de sujets, ou est-ce que déjà ils sont en danger, ils consomment déjà, ce sont ce qu'on appelle les quotidiens, et ils en consomment déjà 1, 2, voire 3, 4, 5, et peut-être même plus tous les jours.
Mais est-ce qu'il est possible de cacher ça à ses parents quand on vit encore à leur domicile?
Alors, malheureusement, je reçois environ 200 familles par an, et sur les 200 familles, j'en ai 95% qui me dit « je ne m'étais pas rendu compte que mon fils ou ma fille consommait ». Donc, et pourtant, l'enfant, très souvent, quand je discutais avec lui, il consomme dans sa chambre. Donc forcément, il y a l'odeur. Et je dis, ou les parents sont naïfs, ou alors ils ne veulent pas voir. Parce que,
des parents qui ne sont pas eux-mêmes consommateurs.
Non, qui ne sont pas eux-mêmes. Non,
ils n'aimeraient pas vous voir, sinon.
C'est des parents. Enfin, moi, je reçois beaucoup de parents du 7e, 8e, 16e. C'est des parents qui ont des métiers vraiment très hauts, qui sont, on va dire, assez argentés. Donc, non, ce n'est pas des parents consommateurs. Ce ne sont pas les bobos parisiens.
Alors, le bilan sanitaire français, pour le seul cannabis, non, pour les stupéfiants, pardon, en 2017, on a compté 537 décès par surdose. Il y avait 80 000 personnes dans les structures. Il faut que vous nous disiez un mot des structures, Serge Le Bigot. Et puis, l'OFDT identifie 350 000 usagers problématiques. Un usager problématique, c'est un usager qui se montre dépendant d'une substance... d'un stupéfiant, d'une substance interdite. Quelle est la différence entre un XAPA, un CARUD? À quoi correspondent toutes ces structures, Serge Bigot?
En fait, le XAPA, c'est le CARUD en un peu plus moderne, quoi, en fait. Mais c'est la même chose. À la base, ces structures-là s'appelaient des centres basse-œil.
Donc, des centres basse-œil.
Basse-œil, c'est-à-dire que le plus bas niveau, en fait. Et donc, dans ces centres-là, les toxicomanes y allaient. On leur donnait donc, tout ce qu'on appelle un kit, où dedans il y a une seringue, il y a de l'eau oxygénée, enfin il y a quelques produits. Et ils étaient censés ramener le kit, puisqu'à la base c'était l'échange. Sauf que l'échange ne s'est jamais fait, ça n'a jamais été pratiqué. Donc les seringues, on les retrouvait comme on retrouve à Gare du Nord autour. En vérité, le toxicomane, il ne prend pas le temps de remettre ça dans son kit, il jette la seringue par terre, et point final.
Parce que c'était à usage unique?
Oui, c'est à usage unique. La seringue est à usage unique. Il a une ou deux seringues dans le kit et il est censé ramener le kit. Donc, c'est une petite boîte noire où il y avait tous les accessoires pour se piquer propre, soi-disant. Et il était censé ramener la seringue, sauf que ça ne s'est jamais fait. Et moi, je m'étais aperçu à Max Dormois qu'en fait, les seringues, on les retrouvait dans les écoles. Parce que souvent, le toxicomane, les murs d'école n'étant pas hauts, ils jetaient la seringue par-dessus le mur. Et ça atterrissait dans les écoles élémentaires du quartier. Donc j'ai plusieurs témoignages de l'époque, c'était dans les années 95-2000, de directeurs d'école qui me disaient le matin, des femmes de ménage avec des pinces ramassaient les seringues dans la cour d'école pour éviter que des enfants d'école alimentaire jouent avec.
Et puis surtout, il ne s'agissait que d'aider à la consommation ou en tout cas à faire de la consommation une consommation propre. Quel est l'intérêt de fournir ce kit, alors qu'il depuis est devenu aussi accessible par distributeurs dans les rues.
Il y a eu les distributeurs, parce qu'à côté des pharmacies, certaines pharmacies en ont. Les pharmaciens sont censés délivrer des seringues aussi aux toxicomanes, gratuitement. Bien sûr, tout ça se fait sur le dos du contribuable, il faut quand même le savoir. Et donc, dans tout ça...
Puisque, pardon, l'objectif est de prévenir la transmission d'un certain nombre d'infections, voilà. HIV, etc.
Voilà, parce qu'il faut savoir que pour les associations dites de réduction des risques, contrairement à moi, par exemple, eux disent ce n'est pas la drogue qui est dangereuse, c'est l'accessoire. Alors que moi, je dis, on peut mettre l'accessoire le plus propre du monde, l'overdose, c'est la drogue qui le fait, c'est pas l'accessoire qui le fait. Et c'est là toute la différence, et c'est pour ça qu'on n'est pas du tout d'accord, et on ne sera jamais d'accord sur le terme. Alors, c'est très bien, on a la réduction des risques. Sauf que normalement, la réduction aurait dû être faite par l'État, et non pas confiée, mais ils ont fait ça dans l'urgence, parce qu'il venait d'y avoir le problème du sang contaminé. Et les toxicomanes commençaient à tomber aussi, comme ceux qui étaient contaminés par avec le sang. Et là, l'État s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose sur la toxicomanie, et on a confié le problème à des associations qui, en vérité, n'avaient qu'un but, arriver, et qui n'ont toujours qu'un but, arriver à légaliser toutes les drogues.
Alors, vous, votre témoignage, Serge Le Bigot, comme président de l'association Parents contre la drogue, vous que je reçois sur le plateau de Radio Courtoisie ce soir, votre témoignage, lui, c'est évidemment un témoignage beaucoup plus inquiétant et beaucoup moins idéologique, puisque notamment dans le dossier noir du cannabis, vous présentez un certain nombre de témoignages accablants, c'est le sous-titre du livre. Je voudrais également signaler les vidéos mises en ligne par le blog drogueaddiction.com, animé par le Centre National de Prévention d'Études et de Recherche en Toxicomanie, CNPERT. Vous, ce que vous observez, c'est évidemment des dommages sur la vie de ces jeunes, puisque
bien sûr, et d'énormes
notre public,
dommages.
Ce sont essentiellement des jeunes. Et alors concrètement, quels sont ces dommages?
Alors, plusieurs dommages. Déjà, déscolarisation totale. Des jeunes qui, j'en ai rencontré beaucoup, je me rappelle, dans un lycée du 7e, par exemple, une jeune fille qui me disait « Oui, mais j'ai 10,5 de moyenne. » Et son prof d'histoire lui a dit ouvertement, il a dit « Mais l'année dernière, quand tu fumais pas, tu avais 17 de moyenne. » Et moi, je lui ai dit que si tu as 10,5 en seconde, tu auras 9 en première et tu n'iras jamais. Tu vas arrêter tes études, comme tous les gros consommateurs, malheureusement, ils arrêtent très jeunes. On est en train de créer des régiments d'assistés sociaux parce que malheureusement, ces gamins-là qui quittent l'école très souvent à 16-17 ans maximum, on les retrouve en train de fumer toute la journée ou chez eux parce que beaucoup de parents sont un peu laxistes sur ce sujet-là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard? Ils n'ont pas d'études, ils n'ont rien. Donc à un moment, on va se poser un véritable problème de drogue sans parler de ceux qui basculent dans les autres drogues. Alors ce n'est pas tout le monde parce qu'effectivement... Le cannabis ne pousse pas forcément vers les autres drogues. Par contre, on sait que tous les consommateurs de cocaïne, d'héroïne ont commencé par le cannabis. Donc ça, c'est reconnu.
Et qu'ils n'en cessent pas la consommation une fois que...
Et qu'ils n'en cessent pas la consommation parce que malheureusement, on a affaire à l'heure actuelle à des polyconsommateurs donc qui consomment. Il faut savoir qu'un consommateur de cannabis, il va forcément très souvent prendre aussi de l'alcool avec. Donc le mélange en plus c'est dangereux, ça multiplie par trois les effets. Il va consommer souvent aussi d'autres drogues. Moi j'ai beaucoup de jeunes qui consomment des ecstasy quand ils sortent le soir, qui consomment cocaïne de plus en plus. J'en vois de plus en plus et des très jeunes. Donc ça commence à poser un verre. Il faut quand même savoir qu'en France il y a 600 000 consommateurs quotidiens de cocaïne. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que si demain on légalisait, tout à l'heure j'écoutais ton sujet, si on légalise le cannabis... Mais à ce moment-là, il va falloir légaliser toutes les drogues, parce qu'on est à 600 000. D'ici un an ou deux, on arrivera au million de consommateurs de cocaïne, et on va faire quoi? On va dire, tu faut légaliser, et pourquoi pas le crack, et pourquoi pas toutes les drogues?
C'est-à-dire, Serge Le Bigot, à vous entendre, que la bataille contre le cannabis, c'est la mère de toutes les batailles en matière de stupéfiants, parce que c'est la substance seuil, c'est le fourrier de toutes les autres
dépendances
à des produits.
C'est la base même de la toxicomanie. Et d'ailleurs, il y a un exemple qui est flagrant, c'est le Colorado. Ceux qui ont voté la légalisation, aux dernières élections, ont dit il faut qu'on arrive à légaliser dans le Colorado toutes les drogues. Donc en vérité, on voit bien que ça, c'est le démarrage. Il faut savoir que derrière tout ça...
Serge Le Bigot, dans le Colorado, pour l'instant, seul le cannabis est légalisé?
Seul le cannabis est légalisé, mais sauf ce que ne disent pas les gens qui sont pour la légalisation en France, c'est qu'en vérité, il y a une supercherie dans la légalisation. C'est-à-dire qu'au départ... Les gens qui ont légalisé au Colorado ont dit on va légaliser le cannabis. Maintenant, ils ont légalisé tout un tas de produits qui ne tirent plus à 30, 40, 45, mais qui tirent à 99% de THC. Ce sont des huiles.
Donc la molécule active.
La molécule active, donc c'est-à-dire on est à.
Du chanvrien, du cannabis.
On est pratiquement à 100% de THC, c'est-à-dire que là, c'est vraiment explosif. Et on a de plus en plus de jeunes dans le Colorado qui se suicident. D'ailleurs, les taux de suicide ont explosé. Ils ont été multipliés par 15 donc ce qui est énorme, chez les enfants adolescents, donc c'est-à-dire qu'en vérité, des enfants qui sont censés ne pas aller dans ces centres-là, plusieurs centres ont été fermés. On parle que ça va empêcher les mafias. Il faut quand même savoir qu'à l'heure actuelle, ils ont trois gros problèmes dans le Colorado, et ça, je le tiens d'un avocat, mais justement du Colorado, c'est les Mexicains, donc en vérité, qui ont bien compris que la légalisation, ça pouvait leur apporter 10 fois plus d'argent, et c'est exactement ce qui passe. Ils ont la mafia russe qui est arrivée, et la mafia chinoise qui est arrivée aussi dans le Colorado. Donc en vérité, ils n'ont plus une seule
mafia.
Parce
que toute la production et tout le commerce, en réalité, n'est pas légal, et il subsiste près de 30% qui est encore illégal, soit par refus de verser des taxes, soit parce que le produit est légèrement différent.
Et puis les gamins,
peut-être cause plus dangereux.
Il y a tout un tas de mineurs, puisque c'est interdit aux mineurs, et qui cherchent du cannabis, et donc les trafiquants sont là pour fournir.
Donc la légalisation n'éteint pas le marché noir.
Bien sûr que non, mais c'est en aucun cas, justement. Et justement, par contre, les magasins ont créé d'autres produits, donc ils en sont arrivés, d'ailleurs ils ont poussé le vice très loin, puisque, sans citer enfin, les petits nounours d'une marque très connue, ils sont arrivés à les faire au cannabis.
Les confiseries.
Des confiseries. Donc c'est bien, non pas pour attirer des adultes, mais pour attirer des jeunes adolescents. Et c'est là qu'on voit le... Alors ils ont créé tout un tas de produits, et donc ils ont créé de nouveaux systèmes, donc il y a une nouvelle façon de consommer qui s'appelle le dabbing, et ce sont donc les fameuses cigarettes électroniques, où dedans on met de l'huile de cannabis, donc très fortement dosée, et là on a tout un tas d'accidents, donc j'ai le témoignage d'une maman du Colorado, dont le fils s'est suicidé à 19 ans, et malheureusement il y en a de plus en plus. Et les hôpitaux commencent à s'inquiéter, l'augmentation du nombre d'enfants entre 12 et 17 ans, donc admis aux urgences des hôpitaux dans le Colorado, pour ingestion ou consommation de cannabis, il a augmenté de 150%, ce qui est énorme.
Est-ce qu'il y a, Serge Lemigaud, au Colorado, un mouvement de protestation, une volonté de revenir en arrière, ou plutôt d'abroger cette légalisation et de revenir au régime juridique précédent ?
Il y a eu un mouvement de protestation, dont la presse française, évidemment, s'est tue totalement, et ils ont gagné, puisque aux dernières élections, ils ont demandé à ce que tous les produits au-dessus d'un certain seuil de THC soit interdit à la vente. Et la loi est passée, quoi. Donc, et ça c'est bizarre, la presse française n'a absolument pas parlé.
Ça signifie qu'il y a une police
stupéfiante
qui contrôle les produits,
bah, la DEA,
une forme de certification.
Qui est totalement opposée à la légalisation. Donc,
la DEA, c'est l'agence anti-drogue,
c'est la drogue
du gouvernement fédéral.
Voilà, exactement, et contrôle. Et ça veut dire que les parents commencent à se mobiliser en disant « mais on a beaucoup trop d'adolescents qui se suicident, Et qui meurent à cause de... Et il faut stopper le mouvement. Et on voit bien que c'est en train de monter... Je viens d'écrire un livre. Justement, j'ai un des avocats américains qui était, on va dire, le plus gros promoteur de la légalisation du cannabis. C'est quelqu'un qui est très connu dans le Colorado et qui m'a envoyé un témoignage en disant « Ce serait à refaire, je ne le referai jamais. 10 ans après, j'ai fait une erreur. »
Parce que ?
Parce qu'il a dit, je ne pensais pas qu'en fait, on allait, et il prévient les parents, il dit, faites attention, la légalisation, ça n'a qu'un but, c'est attraper vos enfants dans la drogue.
Alors Serge Lebigaud, je reviens au cas français. L'OFDT nous enseigne qu'en 2021, l'année n'est pas terminée, mais c'est sans doute une extrapolation, 180 000 personnes ont été mises en cause pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, des ILS, et que les mises en cause ont été multipliées, le nombre de mises en cause a été multiplié par 40 entre 1970 et 2020. Alors, ce qui signifierait non seulement que la consommation a explosé, mais que la répression a suivi. De même, en 2020, il y aurait eu 130 000 interpellations relatives des infractions à la législation sur les stupéfiants. Et pourtant, il faut bien dire qu'en 50 ans, on est à un peu plus de 50 ans, depuis la loi du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses, eh bien, cette législation, elle a évolué. Au début, elle plaçait l'usager sous la surveillance de l'autorité sanitaire et ne lui permettait d'éviter les poursuites pénales que s'il acceptait la possibilité de soins, des soins garantis anonymes et gratuits, sous forme d'injonctions thérapeutiques.
C'est ça.
Or, depuis lors, le nombre d'injonctions thérapeutiques a chuté. Et d'ailleurs, formellement, la loi du 31 décembre 1970 a été abrogée par l'ordonnance du 22 juin 2000. Alors, les dispositions réprimant l'usage de stupéfiants ont été maintenues. Tout contrevenant encourt une peine qui peut aller jusqu'à 3 750 euros d'amende et un an d'emprisonnement. Mais il y a eu tout de même, dites-moi Serge Lebigot si vous êtes d'accord, un long délitement de cette répression, de cette législation qui culminera peut-être dans l'évolution des HSA en salle de crack, on l'a dit. En tout cas, depuis 2007 et la création des stages de sensibilisation, il y a eu 2019 et la création de ces amendes forfaitaires qui ont représenté quoi? Un pas de plus vers la légalisation? Ou est-ce que ces simples amendes forfaitaires étaient nécessaires en raison du temps passé, peut-être perdu par les forces de l'ordre dans la répression du trafic?
C'était plus un pas de plus pour dire on va aller effectivement, il n'est pas normal qu'on arrête quelqu'un qui consomme, on prenne sa cigarette ou son joint et on le jette dans le caniveau, c'est ce qui se passait avant. Et finalement... Si, suivant l'endroit où on était, on avait le droit d'être emmené au commissariat avec un rappel à la loi qui servait à rien bien souvent parce que le consommateur il se moque totalement du rappel à la loi. Donc l'amende c'était nécessaire. Il faut savoir quand même le gros problème de l'amende, et ça je l'avais dit lors de la commission, c'est que l'amende, quelqu'un dans Paris va sûrement la payer. Si vous allez dans certaines banlieues, je peux vous dire que l'huissier n'ira jamais recouvrir l'amende. Donc on en arrive au
stade. 200 euros cette amende forfaitaire délictuelle.
Mais on arrive au stade qu'il y a 40% des personnes qui ont une amende, qui la payent. Donc en vérité, ça ne sert à rien.
Et les refus de payer ne sont pas poursuivis. Elle est pourtant majorée à 450 euros au-delà
de... Le problème, il faut avoir le courage d'aller, par exemple, en Seine-Saint-Denis ou à Mantes-la-Jolie, et je défie un huissier d'y aller tout seul sans les forces de l'ordre. Donc même avec les forces de l'ordre, je ne suis pas garanti qu'il va y rentrer. Donc en vérité, le vrai problème, il est là. C'est qu'il y a très peu de personnes qui vont finalement payer cette amende. Donc si on part de ce principe-là, ça ne sert à rien. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut se dire, est-ce qu'on n'a effectivement pas des territoires où la police ne peut plus arriver, l'huissier ne peut plus y aller non plus? Alors à ce moment-là, il faudrait faire des saisies sur salaire. Mais est-ce que ces gens-là travaillent? J'en suis même pas sûr.
Serge Lebigot, quand il y a effectivement interpellation d'un consommateur, quand il y a comparution devant un magistrat, il y a, on l'a dit, moins d'injections de soins qui sont prises. Est-ce que selon vous, Serge Lebigot, c'est dû à la progression chez les magistrats de la culture de réduction des risques? Est-ce que c'est de la permissivité pure? Est-ce que c'est tout simplement de l'égard pour les finances publiques? Quelle est la raison de la diminution de ces injonctions? Il y a peut-être tout simplement moins de comparutions, moins d'interpellations.
Il faut savoir que la loi n'a jamais été vraiment appliquée, puisque l'injonction a été très peu appliquée en France, alors que la loi le permet. Et puis, il faut savoir que depuis les années 80, on voit bien que le lobby, ce que j'appelle moi le lobby de la drogue en France, donc ce sont toutes les associations qui gravitent autour de Madame Hidalgo et compagnie, font une pression tellement grande sur tous les élus qu'en fait, la loi, on commence à l'oublier totalement. Et on est en train d'arriver à un système où seule la réduction des risques va compter. Et malheureusement, on va aller de plus en plus vers la dépénalisation, vers la légalisation de toutes les drogues.
Ça, c'est votre pronostic ou c'est votre pronostic, en tout cas, c'est ce contre quoi vous luttez?
Je pense que c'est un pronostic que je fais et je le vois bien depuis 25 ans. Je vois bien qu'on est en train, malheureusement, d'arriver. On a trop laissé faire toutes ces associations-là. Et je pense qu'à un moment, il va falloir dire... D'ailleurs, moi, j'arrive pas à comprendre parce que j'ai rencontré des quantités d'élus députés. Et tous les élus que j'ai rencontrés m'ont toujours dit la même chose. On n'arrive pas à savoir combien touche chaque association. Parce qu'en vérité, quand on regarde bien, il y a les subventions, donc la Direction Générale de la Santé, DGE, la Ville de Paris, de la région. Il y a aussi d'autres subventions qui viennent se greffer. Vous avez certains laboratoires pharmaceutiques qui financent. Chirine-Plouffe qui fabrique le Subutex, je sais qu'elle finance quelques associations de réduction des risques. Évidemment, ça fait de la publicité. Vous avez par exemple le Festival de Solidé qui touche de l'argent pour la lutte contre le sida, qui en reverse aussi à ces associations-là au titre de la lutte contre le sida. Donc en vérité, il y a une somme qui est tellement énorme que pas un élu n'a été capable de me dire combien touche chaque association. Et à chaque fois, j'en ai rencontré des quantités.
Parce que tout cet écosystème, nourri d'argent public, forme un groupe d'influence, un lobby.
Exactement. Un député, je peux dire le nom, c'est Jean-Paul Garraud, quand, à l'époque où il était à l'UMP, me disait « c'est un précaré ». Et ils ne veulent surtout pas qu'on rentre à l'intérieur. ils veulent surtout pas qu'on épluche les comptes ni rien. Donc ils se sont, et d'ailleurs quelque chose qui m'avait surpris à l'époque, c'est que le président d'une association est directeur d'une autre association, ce qui lui permet d'être salarié, puisqu'un président d'association France ne peut pas être salarié, et ainsi de suite. Et donc en vérité, quand on regarde bien, et si on regarde un peu, ils sont tous directeurs d'une association, président d'une autre, et ainsi de suite.
Et personne donc n'entreprend de...
Et personne, la Cour des comptes ne s'en occupe pas, alors c'est quand même assez surprenant, il y a tout un jeu. Il faut quand même savoir, par exemple, vous avez une association qui s'appelle SOS Drogue International, dont le directeur a été condamné pour facilitation de l'usage de stupéfiants quand il était directeur d'une boîte de nuit qui s'appelait le Palace. C'est le plus grand ami du président de la République et c'est son conseiller privé. Donc là, on peut se poser aussi des questions sur... on n'est pas prêt d'arriver à quelque chose sur la lutte contre la drogue.
Il n'y a jamais eu de déclaration du président contre les stupéfiants ? Alors, est-ce qu'il y en a eu sur le sujet ?
Quand il avait fait sa campagne électorale au présidentiel, il avait sorti un livre où il parlait plutôt qu'il était favorable à l'égalisation. Et apparemment, il a changé totalement, puisque d'après ce que j'entends, il serait totalement opposé maintenant à la légalisation du cannabis. Donc,
Est-ce qu'il peut y avoir à ce sujet une surenchère entre les candidats ?
Alors, il y aura une surenchère. Alors, moi, il y a des choses qui me surprennent.
Dans un sens ou dans l'autre ?
Il y a un député qui s'appelle Romain Reda, qui est un des conseillers de Valérie Pécresse, qui, lui, est un des plus grands militants pour la légalisation du cannabis. Donc, là, on peut se poser la question, parce que Valérie Pécresse dit qu'elle est opposée. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut être opposé et avoir quelqu'un à côté de soi qui est un des grands militants de la légalisation du
cannabis. Il y a quelques sujets comme cela, je pense, dans l'équipe de Valérie Pécresse.
Qui sont assez surprenants, voilà.
Et en synchronie comme en diachronie.
Il y a des fois, je me dis, ça lui permet, si un jour elle sent que la tendance change, de dire bah, regardez, moi j'ai milité aussi, comme ça j'ai quelqu'un avec moi.
Alors, quelle est l'alternative à tout cela, Serge Le Bigot? Vous avez beaucoup insisté sur la prévention. La prévention, c'est essentiellement de la formation des mineurs, dès le CM2, vous l'avez dit.
Et des parents aussi.
Je pense qu'il faut
aussi former les parents.
Donc les parents sont présents pendant la séance de prévention?
Alors non, ils ne sont pas présents. Oui. Il faut faire une formation dans les écoles pour donc les enfants.
Les enfants parlent librement?
Mais il faut aussi le soir organiser des conférences avec les parents pour justement les informer. Il y a une chose qui se passe dans les pays du Nord qui fonctionne très très bien. À l'âge de 12 ans, ce qui correspond à l'éducation familiale chez nous, ils envoient une brochure de prévention du cannabis à tous les parents dès que l'enfant arrive à 12 ans. Ça, c'est quelque chose qui serait très facile à faire en France. Les allocs, ils ont les fichiers de tout le monde. Ça ne coûte pas très cher et c'est très facile à faire.
Alors ça, c'est une première chose. Un coup de balai dans le fromage des associations, on vous a bien entendu. En aval, on a parlé un petit peu de répression. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur le sevrage ?
Alors, le sevrage.
Parce que l'opposé, l'antonyme de la réduction des risques et des dommages, on parle maintenant de réduction des risques et des dommages, c'est le sevrage, c'est-à-dire la conviction qu'il faut parvenir à l'abstinence complète.
Bien sûr. Bah, de toute façon, pour les toxicomanes, le seul moyen, c'est de devenir abstinent. Sans l'abstinence, sans le sevrage total, on continue, le toxicomane continue dans sa drogue. Et le vrai problème, c'est qu'en France, il y a très peu de centres. Donc, ce qu'on appelait dans les années 70, c'est les communautés thérapeutiques. Et il n'y en a pratiquement pas en France.
Alors, il faut définir une communauté thérapeutique. On pense évidemment au travail que fait Jean-Paul Bruno à la tête de l'association EDVO à Montmagny.
Mais qui n'est pas une communauté.
Mais qui n'est pas une communauté.
Une communauté, c'est différent. Alors,
mais qui propose un hébergement avisé.
Voilà, il fait un hébergement. Donc, ils vont d'abord... alors, je ne sais pas comment maintenant ça se passe. Mais avant, ils allaient au centre APT. Donc, était le centre à Bussy-le-Long qui appartenait à la fille de Jeanne Birkin, qui avait créé ce centre-là, donc le fameux modèle Minnesota. Et ensuite, ils allaient donc dans l'association de Jean-Paul Bruno, dans des pavillons thérapeutiques. La communauté, la différence, c'est que le toxicomane va aller dans un centre où il y a des pavillons, enfin, il y a tout un tas de choses. Et là, il va y rester 2-3 ans, c'est-à-dire qu'il va avoir un sevrage psychique, qui va durer une semaine, 15 jours, au grand maximum, parce que le sevrage physique... Et ensuite, on va lui réapprendre à vivre normalement, c'est-à-dire se lever le matin, se coucher à telle heure. On va lui réapprendre un métier, parce que très souvent, ils n'ont pas de métier, on va l'aider. Et au bout de 2-3 ans, la communauté va tout faire pour lui trouver un emploi quelque part, parce qu'il n'est pas question de relâcher dans la rue, sinon il va replonger forcément. Donc, tous ces modèles-là sont des modèles qui sont basés sur le sevrage.
Et la communauté, qu'est-ce qu'elle apporte de plus ?
Alors, la communauté, ce qu'elle apporte de plus, c'est que le toxicomane, et bien souvent les centres sont dans les campagnes, donc il n'y a pas de dealer autour et tout. Et l'avantage, c'est qu'il va y rester 2-3 ans. Et on considère qu'il faut 2-3 ans pour vraiment stopper sa consommation totalement psychologiquement.
Donc 2 ou 3 ans communauté, donc évidemment ce sont des coûts très importants.
Alors les communautés.
Et ça existe où ?
Alors les communautés bien souvent coûtent très peu cher, ça coûte pratiquement pas d'argent même. Et souvent, par exemple, moi je travaille avec des communautés en Italie.
Parce qu'elles sont productrices ?
Ils sont productrices parce que très souvent ils fabriquent des produits. Il y a des communautés en France, j'en connais, qui sont d'obédience religieuse, mais comme le Sénacolo, comme d'autres, où là les jeunes vont faire du jardinage, vont produire, il y a des poulaillers, il y a tout ça. Donc en fait, ils vont s'auto-produire eux-mêmes. Et l'avantage, c'est que donc tous ces gamins-là vont réapprendre en même temps un métier. Donc très souvent, il y a, avec les différentes entreprises autour, qui jouent le jeu et qui vont prendre de ces jeunes-là pour leur dire, bah, viens, tu vas faire une formation CFA ou n'importe quoi. Et ça permet de réinsérer petit à petit ces jeunes-là dans la société.
On obtient quel taux de réussite avec ces méthodes Minnesota, les communautés ?
En général, les taux dans les communautés, alors Minnesota, je ne connais pas trop le taux, dans les communautés, c'est entre 70-75%. Il n'y a jamais de 100% dans la drogue.
De personnes qui sortent, de la dépendance, sans rechute,
alors, qui sortent
et qui s'intègrent socialement.
Voilà, c'est-à-dire qu'en vérité, ce sont très souvent des sociétés américaines qui font des études au bout de 10 ans. Et on considère que si la personne s'est réintégrée, elle a créé une famille, elle a trouvé un emploi, on considère qu'elle est vraiment sortie de la drogue.
D'accord. Donc, une méthode, des méthodes qui visent, elles, le sevrage et non pas la seule réduction des risques et dommages.
D'ailleurs, Madame Hidalgo pourrait très bien le faire, puisqu'il y a beaucoup de monuments dans toute la France qui appartiennent à la ville de Paris. Il suffit de regarder. Souvent, c'est appartient à la ville de Paris. Donc, ce sont des mini-châteaux, des propriétés. On pourrait très bien créer à l'intérieur des.
Et les locaux existent déjà. Merci beaucoup, Serge
Lebigot,
pour ce tour d'horizon relatif aux drogues, en particulier le cannabis. Et le crack, on a surtout parlé du cannabis, mais on a bien compris que c'était la porte d'entrée vers les stupéfiants. Espérons que le sujet sera repris par les candidats à l'élection présidentielle. C'est la fin donc de cette émission. Serge Lebigot.
Si un maximum de gens peuvent signer la pétition, plus on aura de gens, plus on pourra faire jouer justement aussi bien au ministère de l'Intérieur qu'au ministère de la Santé et à Madame Hidalgo et de lui dire qu'il faut arrêter... de créer des salles de shoot
sur le site de Parents contre la drogue de l'association. Merci à vous Serge Lebigot, merci à Paul-Marie Couteau, merci à Stéphane à la technique. Chers auditeurs, passez un joyeux Noël. Nous nous retrouvons le 6 janvier, jour des rois, d'Arobourg, Servalilium.
Vous venez d'entendre le libre journal des chevaux légers dirigé par Luc Le Garsmeur, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 9 décembre 2021 de 21h30 à 23h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.